L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le
vestiaire. Oh, bienvenue dans le vestiaire. Un vestiaire de plus en plus olympique. Oui, ça s'en vient dans moins de 2 jours. Ce sera le lancement de ces Jeux olympiques de Paris qui s'annonce quand même fort intéressante et haute en couleur, disons-le. Malheureusement, ça commence pas de la belle façon pour le Canada. Ça commence pas par raison de blessures, mais ça commence sous la controverse. Et comme on vous a fait mention un peu plus tôt dans la journée, il y aurait eu de l'espionnage à bord d'un drone lors d'une pratique de la formation de la Nouvelle-Zélande qui sera les premiers adversaires de l'équipe féminine de soccer. Vendredi. Dans le stade où il jouait du côté de Saint-Étienne, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'un drone survolait le stade. Et en remontant le tout, on serait arrivé finalement que c'est l'adjointe Jasmine Mander et l'analyste Joseph Lombardi qui auraient tenté d'espionner l'entraînement de la formation de la Nouvelle-Zélande. Tout de suite, on a confirmé du côté du Comité olympique canadien que ces deux personnes, l'adjointe Jasmine Mander et l'analyste Joseph Lombardi, avaient immédiatement été renvoyées chez eux. Mentionnant qu'indépendamment des détails, on est en fait, de l'entraîneuse Bev Bristman, elle est là après l'entraînement d'une heure de son équipe, elle s'est dit responsable de cette équipe. Sauf que lorsqu'elle a appris pour la première fois l'existence de ce scandale impliquant ces drones par Soccer Canada aux Jeux Olympiques, elle a eu l'impression que le programme avait laissé tomber le pays. Alors, pour cette raison qu'il était important pour elle de prendre un pas proactif et de se retirer des lignes de côté lors de ce match d'ouverture qui aura lieu jeudi entre le Canada et la Nouvelle-Zélande. C'est quand même gros, là. Ça va tellement loin que la coach, elle se garde pour montrer qu'on n'est vraiment pas impliqué dans tout. On ne veut vraiment pas faire de trouble. Je ne serai pas là. Le coach ne sera pas sur les lignes de côté pour l'ouverture de ces jeux. Et ça va tellement loin que les journalistes sont arrivés là-bas à Paris, évidemment. Il y a des rencontres, il y a des salons et tout. Et on passe pour une belle gang de caves. On va vous le dire, là, on passe véritablement pour une bande de caves. Se faire traiter de stupide. Ils sont stupides, ils sont idiots, ces Canadiens. Et, tu sais, on y va fort, là. Et on pousse, on dit, c'était-tu vraiment nécessaire? Alors, ça a des rebondissements énormément. Le Comité olympique canadien qui a également indiqué que le personnel de Soccer Canada devra suivre une formation obligatoire en éthique. C'est pas la première fois que ce comité, en fait, que Soccer Canada est éclaboussé par ce genre de controverse. Un des entraîneurs a été arrêté, a été condamné à de la prison dernièrement pour agression sexuelle sur des joueuses. Les joueuses qui ont même fait la grève après la conquête de la médaille d'or aux derniers Jeux olympiques pour avoir les mêmes traitements que les hommes. Les hommes sont 40e mondial. Les femmes sont 8e et championnes olympiques en titre. Ils sont traités comme des moins que rien. N'ont pas du tout le même traitement que les hommes. Et le pourquoi qu'on... Ce qu'on exige, c'est que la tête de Soccer Canada soit complètement tombée, en fait, changée. Et là, ben ça ajoute une tâche au dossier de Soccer Canada. On a bien de voir la suite des choses, mais on fait vraiment pas belle figure à ce début des Jeux. On a posé la question justement à ces joueuses, qu'est-ce qu'ils pensaient là, de cette histoire à 24 heures du match d'ouverture de jeudi. Eh bien, les joueuses canadiennes, championnes en titre, se disent déçues par les conséquences de l'incident du drone, mais promettent de continuer de se battre sans leur entraîneur-chef, Bev Bristman, après le licenciement de deux membres de son équipe pour avoir fait voler au-dessus des entraînements de la Nouvelle-Zélande. Bien, on s'est volontairement retiré du côté de Bristman. Et Janine Pecky, qui est le milieu de terrain des Thorns de Portland au niveau professionnel, estime que l'incident ne reflète pas l'image de son équipe. On mentionna que oui, on est déçu, mais on a travaillé très dur pour en arriver là. Et en tant que groupe de joueuses, et surtout pour elle qui n'a pas participé à la Coupe du Monde l'année dernière en raison de blessures, on attend ce moment depuis si longtemps et on va se concentrer sur le match. C'est sûr que ça va déranger. C'est sûr que ça va trotter dans la tête et du côté de la foule également. Mais il n'y a pas seulement au Canada qu'il y a des rebondissements et qu'il y a de la controverse. Après près de 4 heures et dans une énorme confusion, du côté de Saint-Étienne, le premier match de la journée du tournoi olympique de soccer et de football, en fait, s'est terminé dans la controverse. Le Maroc a finalement battu l'Argentine par la marque de 2 à 1. Et au bout de plus de 15 minutes de temps additionnel, alors que le Maroc menait 2-1, l'Argentin Cristian Medina a inscrit le but égalisateur après deux ballons contrés et deux tirs sur la transversale. On est à la 90e minute plus 16 minutes ajoutées, c'est 2-2. Mais l'égalité a provoqué la colère d'une vingtaine de supporters et du Maroc qui ont envahi le terrain du stade Geoffroy Guichard, tandis que des bouteilles et des gobelets s'échappaient des tribunes pour atterrir sur le terrain. Il y a même un pétard qui a explosé au pied du banc argentin, comme l'ont montré les images d'Eurosport. Et sans avoir le temps de vérifier la vidéo, une position de hors-jeu sur le terrain argentin, Glenn Nyberg, l'arbitre de la rencontre, a alors invité les joueurs à regagner les vestiaires. Et sans que la fin du match n'ait été sifflée, le public a commencé à quitter le stade avant qu'un message diffusé dans le stade n'invite les derniers spectateurs présents à évacuer les tribunes pour faire reprendre la partie à huis clos. Le site olympique, site officiel des Jeux olympiques, a vite indiqué que le match était seulement interrompu et non terminé. Alors, il a fallu 1h50 environ aux organisateurs pour faire reprendre la partie suspendue pour des vérifications de sécurité. Hey, ça commence à brasser, là. On est en match préliminaire et il y a des gens qui embarquent sur le terrain. La sécurité, là, il va falloir resserrer ça. Dans les nouvelles un peu plus intéressantes et plus positives, bien, on a confirmé qui allait être les porte-drapeaux du côté canadien à l'ouverture de ces Jeux vendredi. C'est la médaillée d'or Maude Charron qui portera le drapeau, tout comme le sprinteur André Degrasse. Donc, Charron qui se souvient avoir porté la flamme olympique en 2010 lors du relais avant les Jeux de Vancouver. Il ne croyait jamais qu'elle allait vivre une aussi belle expérience olympique. Donc, elle est finalement devenue haltérophile. Et après avoir gagné l'or aux Jeux de Tokyo en 2021, elle a reçu l'un des honneurs ultimes pour un Olympien, donc soit porte-drapeau du Canada, en compagnie du sprinteur André Degrasse, pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu vendredi. Alors, Charron et Degrasse vont succéder à Miranda Haïm et Nathan Hirayama, qui avaient été les porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo il y a 3 ans. On a également confirmé que Paris va recevoir à nouveau, en fait, pas Paris, mais la France va recevoir à nouveau les Jeux olympiques dans 6 ans. Les Alpes françaises seront les hôtes des Jeux olympiques d'hiver de 2030. C'est le Comité international olympique qui en a fait l'annonce à la suite d'un vote aujourd'hui. Et en 2034, eh bien, c'est Salt Lake City, dans l'Utah, qui va organiser ces Jeux d'hiver pour une seconde fois dans ce siècle. On sait qu'en 2002, ils avaient battu entre autres la ville de Québec pour la présentation de ces Jeux. Une fête de visionnement qui était prévue à 3h, heure de Salt Lake City et 11h, heure de Paris pour célébrer cette annonce. Il y a de grandes foules qui étaient attendues à l'événement qui coïncide avec un jour férié, mais quand la date à laquelle les pionniers mormons avaient découvert la vallée de Salt Lake dans le nord de l'Utah. Alors, évidemment, pour la France en 2030, on dit que la France devra montrer un dossier intact là, de montrer la préparation sur ces Jeux olympiques. Ils ont vocation à établir un lien entre le nord et le sud des Alpes françaises pour en faire une plaque tournante des sports d'hiver. Donc, on dit que la délégation des Alpes françaises pour les Jeux de 2030 était conduite par le président Emmanuel Macron. Alors, on verra bien ce que ça va arriver, mais on n'est plus dans les fameux processus de « bon, on a telle ville en préparation, en finale, en fait finaliste, et on décide par la suite qui va l'emporter ». Et ils ont 7 ans, mais là, on vient de décider pour ceux dans 6 ans et pour ceux dans 10 ans. Alors ça, c'est déjà décidé. Et on envoie tout simplement les Jeux à des endroits où ils sont déjà préparés, où ils ont déjà les éléments nécessaires pour ce qui est des stades et des installations. Beaucoup plus facile parce qu'on sait maintenant que les Jeux olympiques coûtent extrêmement cher. Dans l'émission un peu plus tard, on va parler de boxe avec Michel Desgagnés. Au lieu de lui parler dans quelques instants, on va lui parler à 16h15, car dans quelques instants, on va parler avec un athlète régional, un joueur d'hockey, qui est un joueur des Marquis de Jonquière et qui vient d'accepter un nouveau poste en tant qu'entraîneur. Il passe du niveau collégial au niveau universitaire. Le 24 des Marquis, Christian Ouellet est avec nous dans quelques instants.
Arrêt de jeu. Participez vous aussi à nos émissions. Je suis Éric Lavoie, recherchiste du 92.5. Je vous invite à nous contacter et participer en ondes aux émissions Réveillez-vous et Le Retour. Vous avez une information à partager ou être témoin d'un événement, n'hésitez pas à me contacter en privé au 418-818-4991. Ma radio d'ici, toujours près de vous, 818-4991.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Vous aimeriez faire vivre une expérience mémorable aux croisiéristes lors de leur escale à Saguenay? Vous avez de l'entregent, vous êtes débrouillard? Rejoignez l'équipe d'accueil des croisières internationales. Promotion Saguenay est à la recherche de préposés à l'information pour les autobus touristiques et aussi de préposés à l'entretien pour la haute saison des croisières internationales. Des emplois stimulants au cœur de l'action. Rendez-vous maintenant au www.promotion.saguenay.ca, section carrière, pour plus d'informations.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
On l'a connu d'abord comme joueur de hockey. Il a terminé son stage junior avec les Saguenayens de Chicoutimi. Quelques années plus tard, il a fait le saut avec les Marquis de Jonquière, dont il reviendra cet automne pour une 7e saison. Mais depuis quelques années, on le voit également derrière le banc des formations de hockey. Il a été à côté de Pascal Hudon, du côté collégial 3A dans la division 1. Et lors de l'arrivée de la division 2 l'an dernier, il a été nommé entraîneur-chef. Et là, bien, il vient de recevoir une offre et fera le saut dès cet automne du côté universitaire avec l'Inuk, les Inuks de l'Université du Québec à Chicoutimi en tant qu'entraîneur-chef en compagnie de Simon Godreau. On parle du numéro 24 des Marquis qu'on a au téléphone avec nous, Christian Ouellet. Salut Christian.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien. De ton côté, changement qui est un peu surprenant parce qu'on te voyait au niveau collégial depuis déjà plusieurs années. Tu as pris à la tête la nouvelle formation Division 2 des Janois. Comment est venue cette invitation au niveau universitaire?
Ben, c'est drôle un peu comment c'est arrivé. En fait, l'été, avec Simon Godreau, on travaille avec Groupe Fusion. Qui ont fait des pratiques durant l'été, là, Raphaël Harvey-Pinard, et là, des fois, André Slapierre était là hier, puis je parlais avec Simon de des pratiques qu'on donnait, puis Simon corrigeait aussi mon HP1, là, qui est la haute performance là, pour les entraîneurs, fait, puis il corrigeait ça de ce côté-là. Moi, je l'avais passé il y a 2 ans. Puis on est venu sur le sujet un petit peu, puis Simon parlait qu'il voulait peut-être avoir un entraîneur adjoint à temps plein. Il devait parler avec l'université. Puis, au début, c'est pas quelque chose que j'étais... j'étais vraiment intéressé. T'sais, moi, j'avais dans la tête d'être avec les Janois, puis on allait avoir l'an 1 de la division 2 TF7. On avait eu quand même une bonne saison pour une première année. Et puis, avec le recrutement qu'on avait fait, là, j'étais confiant pour l'année qui s'en venait. Simon est arrivé avec un offre quand même intéressante. J'ai quand même pris le temps de réfléchir, puis je suis content de ma décision.
Tu sens vraiment une fibre au niveau du coaching. Est-ce que tu sentais ça mais lorsque tu as fait ton retour avec les Marquis il y a 6-7 ans? Est-ce que c'était déjà dans tes pensées d'après-carrière de joueur pour dire ben, peut-être que le coaching pourrait m'intéresser?
Ah, le coaching, oui et non. Mon père m'a toujours coaché, que ce soit au soccer, au hockey, au baseball. Puis après ça, ben, à force de jouer un petit peu, j'ai joué au niveau junior majeur, j'ai été coaché par Benoît Groux. Pascal Hudon m'a coaché aussi au niveau Bantam. J'ai eu des entraîneurs comme Claude Bouchard. Puis à un moment donné, ben, ces personnes-là sont importantes pour toi dans la vie. Hein, c'est pas juste au niveau du hockey. C'est une école de vie, le hockey, là. Puis ils ont eu des influences quand même positives pour moi. Puis à un moment donné, des fois, quand tu montes au niveau professionnel, ben, tu as des entraîneurs, des fois, tu es moins attaché. Il y a des entraîneurs, tu es plus attaché, tu as des meilleurs fits. Et puis, quand je suis revenu, justement, il y a un été, je me rappelle, j'avais travaillé avec Simon Godreau au niveau Bantam. Là, justement, on parlait de Raphaël Arbitino tantôt, qui était justement Bantam. Puis j'avais eu la chance de faire le camp d'entraînement comme en étant coach, puis d'apprendre de Simon. Puis j'ai fait des écoles de hockey à gauche, à droite, puis j'ai vraiment développé une passion pour ça. Puis j'ai pas l'impression de travailler quand on est entraîneur comme ça, ben c'est tellement plaisant. Puis quand tu vois les jeunes qui se développent, je suis content de voir là, le cheminement qu'ils font. Là.
Simon Godreau, donc, restera à la tête des Inuks. Quel sera ton rôle? Est-ce que tu as déjà parlé avec Simon de ton rôle que tu vas faire en tant qu'adjoint des Inuks?
Ben, c'est sûr que je vais être entraîneur adjoint. On a parlé un petit peu de mon rôle. C'est sûr que là, Simon est en vacances présentement. Je m'attends que Simon me donne des tâches, là, que ce soit peut-être pas. On regardera peut-être sur des avantages numériques, sur l'avantage numérique. Pour l'instant, on n'a pas parlé de ça. Il y a aussi Mathieu Simon qui reste en poste. On n'a pas vraiment parlé de ça. J'ai travaillé avec les défenseurs quand j'étais en division 1 avec Pascal Hudon. Alors moi, je suis prêt à tout. J'ai eu la chance justement d'apprendre de Pascal là, dans les dernières années. Il était un très bon mentor pour moi. Je suis vraiment content de travailler avec Simon. Je m'entends bien avec. Puis je trouve que Simon, c'est un passionné, c'est un gars qui a une belle énergie là, jour après jour.
L'an dernier, tu étais à la tête des Janois, tu as joué en fait Division 2, tu as joué également ta saison avec les Marquis de Jonquière. Comment tu vas jumeler les deux? Bon, on sait que tu vas probablement rater le début de la saison, mais bon, à quoi va ressembler le calendrier chez les Inuks cette saison?
Ben, c'est un calendrier, ben, honnêtement, je suis nouveau dans tout ça. Quand Simon parlait un petit peu de ça, je pense que là, justement, il y a l'équipe de Concordia en début d'été qui avait comme décidé de partir de la Ligue. Finalement, ils sont revenus. Alors, le calendrier va bouger encore. C'est ce que Simon me disait. Ils sont encore sur des changements, les réservations de plateau, ces choses-là. Mais un peu comme l'an passé, j'ai eu quelques conflits. Mais ça a quand même été bon dans l'ensemble. Puis, moi, quand j'ai parlé avec Bob, ben, c'est des choses qu'on avait convenues, là, qu'il n'y avait pas de problème. Il reste à voir là, avec le calendrier, le calendrier final, ce qui va arriver. Là. J'ai hâte de voir le nombre de matchs, parce que il y a quand même 16 matchs. Je pense qu'ils veulent passer à 20 matchs au niveau universitaire.
Okay.
C'est que ça va être un nouveau défi. Je pense que c'est une ligue là, qui gagne à être connue, là, parce que on s'entend qu'au Québec, là, c'est bien beau. On a beaucoup d'équipes Pee-wee, Bantam, Midget, même au niveau scolaire, cadet, juvénile. Puis après ça, ben, plus tu montes, l'arrivée du collégial des deux il y a quelques années, qui est rendu quand même une ligue qui est solide.
Oui.
Mais là, il y a l'universitaire des 1, il n'y a pas beaucoup d'équipes au Québec. Et puis là, l'universitaire des 2 qui rentre, ben, c'est un très beau tremplin pour les jeunes de justement d'être dans le niveau scolaire de la sixième secondaire 1 après ça, finir ton université, puis peut-être aller jouer en Europe après ça quand tu as un diplôme dans les poches. Hein, c'est quand même intéressant.
Et on le voit également, ben, ça donne une certaine chance aussi à la Ligue nord-américaine de repêcher des bons joueurs qui, après leur passage junior, vont faire un petit côté universitaire, vont chercher un diplôme et sont prêts à marcher embarquer sur le marché du travail et de continuer à jouer dans un calibre de hockey intéressant. Combien de joueurs universitaires ont été repêchés par les équipes de la Ligue nord-américaine, ce qui permet également à la Ligue senior d'avoir une bonne banque de joueurs. Donc, l'ajout de cette Ligue universitaire qu'on souhaite évidemment du côté des Inuits, on sait qu'il y a l'UQTR qui joue au niveau canadien, mais d'avoir une Ligue peut-être québécoise serait grandement bienvenue.
Vraiment, vraiment, tu sais, quand les Inuits sont arrivés, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y croyait. T'sais, moi, j'étais avec le collégial, j'étais vraiment content parce qu'on a des joueurs justement qui sont là depuis 2 ans. Puis c'est vraiment une belle continuité. Puis ça permet aussi de gagner en maturité, de gagner en force. Tu ne veux pas quand tu as 19 ans, 20 ans, ben tu vas jouer auprès de ça au niveau, que ce soit une ligue nord-américaine. S'il y a des joueurs des fois qui veulent aller jouer en Europe, ben t'es à 21 ans, t'as pas la force physique d'un joueur de 30 ans, d'aller gagner de l'expérience là, puis après ça, ben tu peux aller vivre tes expériences. J'espère vraiment qu'on est content que l'Outaouais est rentré, justement,
oui.
Puis on espère que d'autres équipes vont rentrer dans les prochaines années.
Ça serait très intéressant à suivre. Christian, après quelques années de souffrance, tu as décidé de passer sous le bistouri au cours de l'été pour réparer des blessures qui traînaient en vue de la poursuite de ta carrière de joueur. Comment ça se passe, la guérison, jusqu'ici?
Ah, je suis vraiment content. Enfin. Parce que ça faisait quand même là 3 ans que j'avais eu une blessure quand j'étais justement là en France. J'avais eu le ligament croisé, là, je m'étais tout opéré à la fin de la saison. Ça avait bien été, mais le même genou, là, j'ai eu le ménisque qui était quand même... j'avais des blocages au niveau du genou, ce qui me limitait là, dans mes mouvements. Puis des fois, là, le deuxième match, c'était tout le temps plus... Le genou était plus fatigué. Je sentais des fois que c'était plus facile à bloquer. Puis là, finalement, ben j'ai eu une opération qui a été un franc succès. Là, je suis vraiment content du rétablissement, ça va bien. J'ai pris mon temps. Tu sais, j'ai fait des erreurs quand j'étais plus jeune, là, d'aller des fois tu vas aller trop vite. Fait que j'ai vraiment pris le temps là, de j'ai écouté l'orthopédiste, je fais mes exercices, là, tranquillement pas vite, ben, c'est la remise en forme, puis on va être prêt pour la prochaine fois.
Est-ce qu'on vise, mais normalement on disait un retour aux fêtes, est-ce qu'on souhaite peut-être arriver plus tôt?
On souhaite arriver plus tôt. Je pense que je vais être capable d'arriver plus tôt. Tu sais, comme je t'ai dit un petit peu, je ne veux pas faire les erreurs du passé là, de recommencer trop vite non plus. Tu sais, j'y vais vraiment, là, tu sais, je suis rendu à 32 ans, je connais bien mon corps. Quand j'avais eu justement mon opération au ligament croisé, tu sais, j'étais revenu très vite. Je faisais juste ça de ma vie, de m'entraîner dans ce temps-là, puis j'étais à 100%. Puis je suis revenu peut-être une petite affaire trop vite là, que l'orthopédiste m'avait dit. Puis peut-être que c'est ça qui a fait en sorte qu'après ça, le genou est peut-être plus faible un peu. Mais là, regarde, j'ai pris le temps. J'écoute les conseils. Puis regarde, je suis vraiment content là, du déroulement là, de mon genou.
Christian, un grand merci pour ta disponibilité et de nous avoir parlé aujourd'hui. On te souhaite une bonne fin d'été. Puis on risque de se reparler cet automne.
Yes, ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup.
Salut.
Christian Ouellet des Marquis de Jonquière et des Inuits de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, il fait le saut au niveau universitaire après un an passé à la tête des Janois Division 2 d'Alma au niveau collégial et quelques années derrière le banc comme adjoint à Pascal Hudon en Division 1. Eh bien, il fait le saut avec les Inuits de l'Université du Québec. On rappelle, hein, l'équipe des Inuits sera de retour pour une 3e saison. On peut dire en division 2. On sait que la grosse division, ben, c'est là où il y a l'UQTR et avec plusieurs équipes canadiennes. Mais à quand une ligue québécoise? Est-ce qu'on pourrait embarquer, par exemple, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue? Bon, il y a l'Outaouais qui embarque. Est-ce que Sherbrooke pourrait embarquer également? Est-ce que d'autres universités pourraient emboîter le pas et faire le saut dans cette ligue universitaire où on pourrait développer de bons joueurs, de bons élèves, de bons citoyens, tout en jouant un hockey intéressant et par la suite, ben, peut-être faire le saut par la Ligue nord-américaine. C'est ça le tremplin qu'on est en train de préparer. Je pense que ce serait un fit parfait pour la suite des choses. 15h59, ah ben tiens, on continue de parler olympique, puis une autre tuile qui tombe sur la tête des Olympiens, et bien des athlètes cette fois-ci au tennis. Celui qui a été numéro 1 il y a quelques semaines, le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, doit déclarer forfait pour le tournoi olympique de Paris. Dans un communiqué qu'il a envoyé aujourd'hui, il mentionne qu'après avoir consulté le médecin et s'être donné un jour de plus pour voir si son état s'améliorait, eh bien, on dit que son état, c'est vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année et qui a atteint les demi-finales de Roland-Garros où va se dérouler le tournoi olympique. Il était l'un des principaux candidats au podium. C'est dit évidemment triste et déçu. Les Jeux olympiques étaient un de ses objectifs principaux de la saison. Très impatient de concourir avec ses coéquipiers, mais il va devoir attendre à celui qui allait représenter l'équipe d'Italie, âgé seulement de 22 ans. Le tournoi olympique de tennis qui va commencer ce samedi sur les courts en terre battue de la Porte d'Auteuil. Évidemment, on va surveiller Carlos Alcaraz pour l'Espagne et évidemment Novak Djokovic qui sont tous les deux en quête d'un premier titre olympique. Il y en a un qui pourra évidemment se battre dans les prochaines Olympiques. Mais pour un autre, pour Djokovic, ben c'est peut-être ses derniers Jeux, lui qui est maintenant âgé de 37 ans. On va à la pause dans quelques instants. Serge Cloutier sera avec nous. On va parler de plein de sujets qui concernent le sport avec Serge qui, évidemment, est là tous les mercredis. On parle un petit peu de hockey. Hein. Il y a quelques joueurs des Sags qui ont eu une invitation au camp de sélection de l'équipe Canada des moins de 18 ans. On vous nommera qui dans quelques instants. L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Vous aimeriez vous débarrasser de vos maux de dos, mais vous êtes découragé après plusieurs tentatives? Si vous souffrez toujours de douleurs au dos, au cou ou d'engourdissement malgré les bons soins reçus, peut-être que vous souffrez d'arthrose vertébrale ou encore de blessures à vos disques. Et si c'est votre cas, les docteurs de la clinique Neurodisque peuvent vous aider à mieux comprendre ainsi qu'à mieux soigner votre condition. Prenez rendez-vous maintenant au 418-543-1113 pour un examen complet de votre condition actuelle avec les docteurs de la clinique Neurodisque et donnez-vous la chance de recommencer à vivre pleinement.
Vous faites du camping? Le terrain de votre chalet est immense. Vous voulez vous déplacer sans vous ruiner? Les centres d'autonomie vous offrent maintenant des voiturettes de golf de marque Caro. 3 modèles disponibles, 4 à 6 places. Mag aux 4 roues, tout équipé pour moins cher qu'un côte à côte. Venez voir nos toutes nouvelles voiturettes de golf pour camping et chalet au centre d'autonomie. 690 rue des Actionnaires, Chicoutimi. 399 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini. Avec les centres d'autonomie, la vie continue.
Cet été, la pulperie vous en mettra plein la vue avec ses trois nouvelles expositions, notamment Une passion, deux roues, trois histoires, qui vous fera découvrir plus de 50 bicyclettes de toutes les époques, dont plusieurs rares, voire uniques. Plus de détails sur pulperie.com.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Comme à tous les mercredis vers 16h, on jase avec Serge Cloutier. Salut Serge!
Salut mon dame, ça va bien?
Ben, ça va très bien avec encore une fois la belle température, les Jeux olympiques qui sont sur le point de débuter. Un peu de controverse par exemple, c'est une mauvaise tâche du côté des Jeux olympiques et pour l'équipe canadienne de soccer qui tente chez les dames de défendre leur championnat.
Écoute, j'aimerais ça que tu le rappelles à nos auditeurs, parce qu'il y en a peut-être qui viennent de joindre à nous. Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que l'équipe de soccer, ou ils ont fait quelque chose d'illégal?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux responsables de l'équipe d'entraîneurs, des entraîneurs adjoints, qui auraient, là, on demande toujours conditionnel, mais là, on les a tassés. C'est que, bon, on est en préparatif pour le premier match qui aura lieu demain, du Canada contre la Nouvelle-Zélande. Et on s'est aperçu, durant l'entraînement de la Nouvelle-Zélande au stade de Saint-Étienne, qu'il y a un drone qui survolait le dessus du terrain. Et on s'est rendu compte que ce drone venait de l'équipe canadienne qui ont voulu suivre et voir comment se déroulait l'entraînement de leur premier adversaire au tournoi. C'est venu, évidemment, au nez de plusieurs et du Comité olympique canadien et du Comité olympique tout court. Et là, on a décidé de trancher, de renvoyer deux des entraîneurs et même l'entraîneur-chef. Elle a décidé, garde, pour être sûr là, que nous, on n'est pas jumelés à ça, je ne me présenterai pas au premier match, je ne serai pas sur les lignes de côté. Ça commence mal.
Bien, ça paraît mal. C'est de valeur parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne sais pas pourquoi la personne qui a pensé à ça, là, il n'a pas réfléchi longtemps. Là. Tu arrives dans un moment important, tu arrives aux Olympiques, à Paris. T'sais, ça va être quelque chose de grandiose. Les Olympiques d'été, c'est très spectaculaire. C'est le fun, l'athlétisme. Il y a toutes sortes de belles choses. Puis tu arrives, pouf, à la veille pratiquement du premier match. Pas tellement intéressant.
Non, c'est pas tellement intéressant. Mais tout de même, si on enlève cet événement-là, à quoi tu t'attends de l'équipe canadienne olympique? Là, évidemment, on parle de plus de 330 athlètes, de 60 Québécois. Penses-tu que le Canada va faire belle figure?
Bien, j'ai hâte de voir, parce qu'on a de très bons athlètes. Maintenant, 60 Québécois, comment ils vont réagir? Il y a 11 310 athlètes, à quelques exceptions près, là, qui vont être là. 206 pays, 329 épreuves et 338 Canadiens. Évidemment, combien de médailles pour le Canada et combien de médailles pour nos Québécois? Ça, c'est une mauseuse de bonne question. J'ai hâte de voir l'ouverture vendredi parce qu'on sait que Paris, avec la Tour Eiffel puis la Seine, ça va être magique quand les gens vont se présenter là, en bateau pour vivre ça, là, j'ai vraiment, vraiment hâte. Évidemment, il faut toujours penser qu'on a 6 heures de décalage, oui. Les autres, là. Alors là, ça va être à quelle heure exactement qu'on va pouvoir suivre les Olympiques, là, l'ouverture officielle, là. Les porte-drapeaux pour le Canada, c'est André Degrasse, si je ne m'abuse, c'est oui. Maude Charron.
Exactement, Maude Charron qui a remporté l'or en haltérophilie il y a 3 ans. Et André Degrasse, bien évidemment, on le connaît puisqu'il est l'un des plus rapides au monde qui seront les porte-drapeaux. Je pense que c'est pleinement mérité pour les deux athlètes.
Ça va être spectaculaire vendredi, s'il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'on sait que comment Paris, c'est beau, comment la Tour Eiffel, c'est magique, la Seine. As-tu déjà été à Paris, Dominique?
Non, jamais.
Écoute, si tu as une chance dans ta vie d'aller voir ça, d'aller te promener à Paris avec tous les musées qu'il y a là, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller. Et là, avec les Olympiques, c'est grandiose.
On revient ici, mon cher Serge. T'sais, parlons un petit peu de golf et d'un athlète, en fait, d'un golfeur de la région qui fait bien. Tu veux nous parler d'Anthony Jonf?
Anthony Jonf, ça n'a pas de bon sens, Dominique. Hier, il a joué 61, moins 11. Une partie amicale, tu vas dire que ce n'était pas en compétition. Mais faut-tu que tu joues au golf pour jouer moins 11, peu importe le terrain, là?
À quel endroit il a fait ça?
À Chicoutimi.
À Chicoutimi, moins 11?
Moins 11. Il a battu le record du terrain de Kevin Fortin-Simard, qui était de 63. Wow. Et je l'ai vu, moi, au 18e, parce que j'étais sur la galerie en haut, mais je ne savais pas, moi, qu'il s'en allait vers le record. Et lorsqu'il a fait ses deux roulés, là, au 18e, parce qu'il avait pris le 18e en deux, lui, c'est pas trop un problème.
Ben non.
Ça s'est mis à crier et à photographier. Il y avait Guy Leblanc qui était là, puis il y en avait deux autres, François Collard, puis l'autre nom m'échappe, mais moins 11, 61. Alors, tu sais, tu dis, là, le jeune, il a 19 ans, il a gagné le Duc de Kent. Il y a 2 semaines, il a fini 3e au championnat amateur québécois à moins 13 pour ses 4 rondes. Et là, hier, pour s'amuser comme ça, là, 61. Dimanche, il y a eu le tournoi Rose pour la cause que je t'avais parlé la semaine dernière.
Oui.
Ben, pas besoin de te dire que c'est lui avec son équipe qui a gagné. Ils ont joué moins 14. Et pour te montrer comment ce jeune-là frappe, là, au 4, tu sais, au 4, il y a un lac. Là.
Oui.
Puis il est assez large, le lac. Je te dirais qu'il y a quasiment une quarantaine de verges.
Quand même.
Il jouait blanc-bleu, OK, dans le milieu, entre les bleus et les blancs. Il a drivé à 80 verges du vert.
Ben voyons donc.
Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est un jeune là, qui frappe aux alentours de 3,50. Bien souvent, là, entre 3,25 et 3,50, ça dépend comment ça roule, évidemment, mais oui. C'est tellement un bon joueur. Moi, ce que je souhaite, c'est que à son âge, avec le potentiel qu'il a, qu'il soit recruté par une université américaine.
Oui. Ben, ce serait parfait pour lui. Ça. Absolument.
Ben, c'est parce que ça coûte une fortune pour aller jouer aux États-Unis. Puis tu sais, des Anthony Jonf puis des Kevin Fortin-Simard, ils en poussent à toutes les semaines aux États-Unis.
Oui, ça, c'est pas un problème.
Ben non. Alors, si tu veux avoir la chance là, de continuer de progresser, les gens le voient aller là, un peu partout dans les tournois. Là, il s'en va en Saskatchewan dans 2 semaines. Alors, moi, j'espère qu'il va être recruté dans une université américaine pour qu'il ait la chance d'aller encore plus loin. Et si j'étais à la place du club de golf Chicoutimi, parce que c'est tout un ambassadeur, là, je lui ferais faire une plaque pour l'exploit, probablement ce qu'ils vont faire. Là. Mais c'est parce que ça me rappelle qu'il y avait une Fortin-Simard. On avait fait une plaque pour lui au club de golf Saint-Prime, parce que lui, il vient de Robertval, oui. Kevin. Alors, on avait fait une belle plaque, puis on l'avait honoré. Alors, j'imagine, puis j'ose croire que le club de golf Chicoutimi va honorer Anthony Jonf, qui nous représente d'une façon exceptionnelle.
Il y a quel âge?
Chapeau.
Il y a quel âge, Anthony?
19 ans.
Colin, il est tout jeune encore.
Alors, il est bon, Dominique, il est bon. Hey, pour jouer 61, là, moins 11, là.
C'est incroyable.
Pas besoin de te dire qu'il y a des Eagles puis des Birdies, puis ça finit plus, là. Alors, sinon, c'est vraiment, vraiment quelque chose, là. Puis, tu sais, il a battu. Moi, je dis toujours que c'est le meilleur depuis Kevin Fortin-Simard.
Oui, oui.
Bien, il a battu le record de Kevin. Tu vois, hein?
À 19 ans seulement.
Les deux meilleurs de l'histoire, Anthony et Kevin Fortin-Simard. De l'histoire de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Je ne suis pas du Québec, même si ça fait partie des bons joueurs au Québec, là. Mais pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis pour le club de golf Chicoutimi, on peut être fiers.
C'est assez impressionnant. Serge, on demeure dans le monde du golf. C'était le British Open en fin de semaine et Xander Schauffele a remporté la victoire. Ça n'a pas été un tournoi facile pour plusieurs. On sait que les tournois au niveau British est toujours un peu plus difficile sur le bord de la mer, le vent, la température. Mais Schauffele s'est battu tout le week-end pour aller chercher la victoire.
Il est bon. Il connaît une saison exceptionnelle. Il a gagné le championnat PGA. Puis là, il vient de gagner son deuxième tournoi majeur de la saison dans des conditions pas faciles. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil aux trappes. Là.
Oui, oui.
Il y a à peu près 10 pieds de haut, tu sais, c'est un exemple. Là. Alors, ces gars-là, évidemment, ils sortent des trappes, ils sont bons, mais ça a fait mal à plusieurs golfeurs, dont Scheffler, le meilleur joueur cette année. Oui. Là. Mais Schauffele n'est pas loin. Schauffele, ça a toujours été un bon golfeur, mais il n'était pas capable de terminer ses tournois.
C'est ça.
Tu sais, il finissait 8e. Des fois, il était en tête après 3 rounds. Mais whoop, il avait une mauvaise 4e ronde, puis il perdait la tête. Mais là, il y a 2 championnats dans la même année. Bien, écoute, c'est tout un tournoi qu'il a joué, -9. Tu sais, quand tu considères que Scheffler a joué -1, là, c'est 8 coups d'avance sur le meilleur au monde. Quand ça veut faire, puis ça veut tomber, puis tu es à bonne place, parce que ça ne prenait pas grand-chose là, pour sortir du verre, tomber non. d'une trappe. Alors, il y a eu des très bons joueurs, dont Justin Rose. Rose, là, rendu à son âge, là, il n'est pas à bout d'âge, il a 36-37 ans. Sauf qu'il a connu un excellent tournoi. D'ailleurs, il s'était qualifié pour jouer le British Open, mais il n'a pas gagné, mais c'est Schauffele qui a gagné. Un bon tournoi à suivre, c'était bien agréable, alors chapeau.
Pour d'autres, c'est plus difficile. Du côté de Tiger Woods, je pense qu'il veut bien essayer, mais je pense que le meilleur est vraiment derrière lui.
Le monde l'aime tellement, là. malgré tous ses déboires, malgré que c'est son pire tournoi British Open à vie, le monde croit que l'an prochain, il va être meilleur.
C'est incroyable. C'est fou, hein?
Mais là, l'an prochain, il va avoir 49. Il est juste à un an de jouer sur le circuit senior. Il frappe encore la balle, il n'y a pas de doute. Mais il pote plus.
C'est ça.
Ben, si tu potes pas, c'est le terme de golf, les coups roulés, là, pas trop français, mais il pote pas. Alors, si tu potes pas dans ces tournois-là, tu gagneras jamais.
Exactement.
Tiger, à son meilleur, on sait qu'il était excellent. C'est un des meilleurs de l'histoire. Les gens, là, moi, j'ai osé écrire là, que il devrait réfléchir. Oh, sacrifice! Je me suis fait engueuler, mon ami. Il est encore bon. Puis comment il jouera ça, ça ne nous dérange pas. Puis le monde l'aime encore. Puis oui, ils ont raison. Le monde l'aime encore.
Oui.
Il a été applaudi à tout rompre. Puis il a joué plus 14. Fait que ça te donne une idée là, comment à plus 14, dans un tournoi comme British Open, c'est pas bien ben fort. Sauf que c'est Tiger.
C'est
le
ça.
Monde, quand il a joué son dernier trou, ils l'ont tous applaudi. Alors, tu vois là qu'il y a encore une auréole au-dessus de sa tête.
Vraiment.
Là. On l'aime encore, puis tant mieux.
Et son auréole semble meilleure que celle de Rory McIlroy. Comment ce joueur-là est descendu bas? Puis on espère toujours, ben il va revenir. On le voyait comme le remplaçant de Tiger Woods. Fait 10 ans qu'il n'a pas gagné un majeur.
Bon, puis en fin de semaine, il a joué plus 13.
Ça a été laborieux pour lui. Qu'est-ce qui se passe du côté de McIlroy? Ah,
je ne sais pas. Tu sais, il y a eu des problèmes conjugaux. Est-ce que ça l'a affecté vraiment? Tu sais, c'est des choses qui arrivent dans la vie, mais ça devient public, c'est pas long. Hein?
Non, non.
Là, il est retourné avec sa femme, mais il n'est plus capable. On dirait que pourtant, c'est le gars qui cogne le plus loin. Le gars qui a énormément de potentiel, mais en fin de semaine, il n'était pas tout seul, là. Tigala, puis bien des joueurs ont joué plus 11, puis plus 13, puis plus 14. C'est coudonc. Tu l'avais ou tu ne l'avais pas sur un terrain comme ça.
Voilà.
Alors, disons que Tiger, puis McIlroy, en fin de semaine, eux autres, ils ne l'avaient pas. Alors, Schauffele, lui, il l'avait.
Il l'avait.
A gagné, bravo.
Serge, avant de quitter, tiens, parlons un petit peu des Saguenay-Chicoutimi. Je parlais cette semaine avec Yves Bolduc qui mentionnait « Hey, le camp des Sags, c'est dans 3 semaines. » Ça va quand même assez vite. Puis on sait que les Saguenay vont avoir une bonne organisation. Encore un peu jeune, mais le développement va très bien. Et il y a 3 jeunes joueurs des Sags qui ont été invités au camp de sélection des moins de 18 ans de l'équipe canadienne.
Oui, ça prouve que le repêchage de Yannick Jean l'année passée était excellent. Alex Wong, Émile Guitté, Nathan Lecomte sont invités au camp de sélection d'équipe Canada des moins de 18 ans. Ça, c'est pour tenter de se trouver une place pour la Coupe Linka-Gretzky,
oui,
qui va avoir lieu du 5 au 10 août à Edmonton. 5 au 10 août, là, c'est dans 2 semaines.
Ça va vite, là.
Ça va vite, mais je ne sais pas s'ils vont faire l'équipe parce qu'il y a beaucoup de jeunes invités. Mais ça prouve que quand tu fais un repêchage, des fois, tu te trompes. Mais les Sags, là, depuis 2-3 ans, avec Massé, avec Guitté cette année, avec le jeune défenseur Wong, avec Lecomte, tu sais, quand tu es invité dans des camps d'entraînement comme ça, là, ça veut dire que tu as beaucoup de potentiel.
Oui.
Alors, les jeunes vont avoir un an de fait dans le junior majeur, vont avoir 17 ans cette année, vont continuer de progresser. Les Sags vont être meilleurs cette année. Maintenant, la division et la conférence est tellement forte. Comment ils vont finir, on ne sait pas. Parce que, tu sais, dans les Maritimes, Cap-Breton, là, puis Moncton, là, c'est très, très fort cette année. Bécomo, encore une bonne équipe. Les Saguenayens, Rimouski, qui va avoir la Coupe Memorial.
Eux, ils se préparent, là.
Oh, ben oui. Il n'y a pas à peu près. Fait qu'à ce moment-là, ça va être intéressant à suivre. Mais les Sags, cette année, vont avoir une très bonne saison. Où ils vont finir? Il est trop tôt pour faire des prédictions, mais il y a une chose qui est certaine, ça va être intéressant cette année et l'an prochain.
Serge Cloutier, toujours un grand merci, un grand plaisir de te parler.
Salut mon dame, on se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. 16h19, dans quelques instants, ben on va parler de boxe, hein, comme à l'habitude. Et quelques combats qui s'en viennent là, un peu partout au niveau pas amateur, mais... également au niveau olympique, hein, la boxe olympique est toujours intéressante. Il lance en question avec Michel Legrand.
Arrêt de jeu. retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
Vous pêchez à la mouche le saumon, la truite de mer, la mouchetée. Passez chez Chasse et pêche Chicoutimi et obtenez 20 % de rabais sur tout le département. Chasse et pêche Chicoutimi, coin autoroute.
Chez Kia Rolls d'Auto, on célèbre 25 ans d'innovation au Canada avec le Kia Seltos 2024. Embarquez dans un Kia Seltos 2024 et profitez d'offres de location et financement dès aujourd'hui. Kia Rolls d'Auto, du mouvement vient l'inspiration.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés. Employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez
l'Étoile Dodge Chrysler.
Oh oui, il sera question de boxe et de boxe olympique dans cette chronique avec Michel Desgagnés. Salut Michel.
Hey, bonjour, Dom.
Avant de parler de boxe olympique et que tu nous énumères un peu les coachs qui vont être là pour représenter notre équipe canadienne et des espoirs peut-être de médailles, parce que je sais qu'au niveau de la boxe, ça fait quand même plusieurs années qu'on est en attente de médailles. Parle-nous un petit peu du combat que Vanessa Lepage-Joannis va disputer prochainement, un combat de championnat du monde.
Oui, ça fait une couple de semaines qu'on en parle, là, puis là, c'est vraiment samedi que ça a lieu à Détroit. Écoute, c'est un gros combat pour Vanessa. Vanessa est déjà championne du monde chez les poids lourds. Par contre, elle va aller chez les mi-lourds avec Clarissa Shield, qui est comme considérée une des meilleures au monde, deux fois championne olympique, 14-0 en combat professionnel. Écoute, c'est une grosse pointure pour Vanessa, mais Vanessa a déclaré qu'avec, pour elle, la boxe, c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle aime, puis elle dit « Je me sens pas du tout impressionné, je suis déjà championne du monde. » Ça fait que je pense que ça devrait faire un bon combat. Vanessa est capable de bien se débrouiller dans un ring. Clarissa, c'est pas la plus grande connue. Elle a pas beaucoup de victoires par KO. Ça fait que je pense que ça pourrait faire un combat qui va aller à la décision vraiment là.
Ça sera très intéressant à suivre. On sait que le week-end dernier, il devait avoir le grand retour de Jean-Pascal. Bon, malheureusement, ça a été remis au 21 septembre prochain. Et au lieu d'être du côté du Casino de Montréal, ça aura lieu au Colisée de Laval. Bon,
oui.
Toi qui, bon, évidemment, as suivi un peu sa carrière, intéressé à la boxe québécoise, est-ce que tu es tenté à te déplacer à Laval le 21 septembre prochain pour aller voir ce combat-là?
Ben, j'aurais pas le choix de me le placer, ça va être le deuxième combat de notre ami Serge Ntetu.
C'est vrai, ça va être là.
Il va rencontrer un adversaire qui a déjà battu au Gandori, là. Je pense que ça va être un bon combat pour Serge. Il y a un autre jeune de Chicoutimi, Alex Gagnon également, qui va faire son deuxième combat professionnel. Il est entraîné par José Malaison de Jonquière présentement. Okay. Okay. On va avoir deux boxeurs de la région. Et on va être tout près du ring pour voir Jean-Pascal.
Ça va être très intéressant. Maintenant, on va parler d'Olympique, hein, Michel, ça commence en fin de semaine, les Olympiques du côté de Paris. Et comme j'ai mentionné en introduction, Ça fait longtemps qu'on est en attente de médailles du côté du Canada. On a eu quand même de beaux espoirs dans les dernières années, mais malheureusement, les médailles se font attendre. Tu t'attends à quoi cette année du côté de l'équipe de boxe canadienne? Et également, parle-nous de qui va représenter les boxeurs au niveau du coaching.
C'est drôle, hein? Je m'attends à une coupe de médailles.
Ah, oui?
On a deux boxeurs canadiens, puis je m'attends à avoir des médailles. Parce que, écoute, j'ai parlé, je suis tout près avec Vincent Auclair. Vincent Auclair, qui est un jeune entraîneur, là, même pas en quarantaine encore, là, qui vient de Québec, qui a fait ses classes déjà à Québec avec les Rémi Bigier, les Patrick Claveau. Il a fait ses études, lui-là, en intervention sportive. Il a un bac en intervention sportive. Il est retourné à Montréal à un moment donné pour se joindre au grand club de Montréal, qui était le club champion dans le temps, avec Renald Boisvert, qui Renald, c'est un entraîneur réputé à Montréal. Il a fait ses classes avec. Il a entraîné plusieurs boxeurs professionnels. Il est encore du côté professionnel, mais depuis 2 ans, on lui a offert un poste là, au niveau sur l'équipe canadienne de boxe amateur. Ça fait qu'il est vraiment là, il se promène à peu près dans tous les pays depuis 2 ans. Il est avec l'équipe. Puis, écoute, il m'a parlé, il dit Michel, il dit Gare, il dit moi, je lui ai demandé, tu sais, sa première, j'ai dit à quoi il faut s'attendre vraiment là?
OK.
Mais si on parle de la. Notre boxeuse là, qui est Tamara Thibault. Tamara Thibault, écoute, une petite fille de Shawinigan qui est déjà championne du monde. Elle a gagné championne du monde en 2022. Elle a gagné les Jeux panaméricains. Écoute, c'est une fille qu'à l'heure actuelle, c'est elle qui part favori dans le tournoi. Chez 75 kilos. Ça fait que déjà là, mais c'est comme une idée. Il dit, gars, il y a des nouveaux pays qui sont là, qui n'étaient pas là au championnat du monde. Ils sont là, mais il dit quand même Tamara, c'est elle la tête d'affiche là-dedans. Je pense qu'on s'attend. Moi, je m'attends vraiment à une médaille. Puis c'est plus proche de la médaille d'or, certain, avec Tamara.
Ah ben ça va être vraiment intéressant de suivre ça. La compétition de boxe, est-ce que tu as les dates du début?
Ben les dates, écoute, ça, pour. Mais il y avait notre ami Wade Sanford là, qui vient de la Nouvelle-Écosse. Ça fait que lui, à l'heure actuelle, Sanford, son premier combat, c'est le 29.
OK.
Du livre le 29. Puis Tamara pour le 31. Moi, je devrais avoir. Le tirage au sort a lieu demain. Je devrais avoir les adversaires là, en conséquence là, sur papier là, demain soir ou samedi au plus tard. Et qu'on va, la semaine prochaine, on va pouvoir parler de ces deux combats-là. Et on va pouvoir parler de victoires, parce que moi, je m'attends à des victoires. Si on prend Sanford a battu un Cubain dernièrement, et c'est un gars qui s'adapte dans le ring. D'après son entraîneur Vincent, écoute, il y a un beau volume de coups. C'est un gars qui s'ajuste bien à différents styles de boxeur. Ça peut être très, très intéressant.
Et j'ai bien hâte d'en rediscuter dans le vestiaire, puisque la lutte, quand on parle au niveau professionnel, ça a un certain style, mais au niveau olympique, c'est pas évident, là. Ils vont faire plusieurs combats en l'espace de quelques jours pour espérer aller chercher la médaille. Donc, tu sais, c'est quand même, ça prend une énergie quand même spéciale.
Ah, ça prend une grosse énergie, tu sais, dans la catégorie de Tamara, il y a moins de représentants. Chez les femmes, elle va faire sûrement 2 à 3 combats. Dans la catégorie de White Sanford, chez les 140, c'est très populaire. Mm. La compétition est élevée énormément. Tous les pays sont là dans cette catégorie-là. Ça fait qu'il y a une grosse compétition. Il peut faire jusqu'à 4 combats minimum là, pour aller chercher une médaille. Ça fait que, mais moi, je pense qu'il faut ouvrir la TV, faut regarder quel poste que c'est présenté, puis essayer d'avoir ça. C'est sûr qu'on a 6 heures de décalage, ils n'ont pas les mêmes heures que nous autres, mais c'est des combats, ça va être sûrement des combats très, très intéressants à voir. Puis de la boxe olympique, aujourd'hui, c'est beau à voir. Les athlètes sont super performants, ça s'améliore d'année en année. C'est vraiment, ça va être vraiment spectaculaire.
On va suivre ça, évidemment, dans le vestiaire, puis on va énumérer tout ça avec toi la semaine prochaine, mon cher Michel.
Promis.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne fin de journée. Michel Desgagnés du club de boxe, Chicoutimi, qui nous parlait donc de ces Olympiques et de nos espoirs qu'il y aura au niveau des Jeux Olympiques qui débutent vendredi. On ferme le vestiaire dans quelques instants. Ben, c'est le retour du 92.5.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.